RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Jérôme Rantel, avec Daniel Riolo. On a entendu Francis Lalanne, petit générique d'entrée. Je sais pas ce qu'il devient, Francis Lalanne.
Moi, il écrit, pas de nouvelles, mais j'étais pas très ami avec lui, donc c'est normal que j'ai pas de news.
Il écrit,
en fait.
Non? Très bien, peut-être. Ouais. Alors, on voulait conclure le débat des gardiens.
Ça m'intéresse. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit. Alors c'est vrai qu'il y avait une tradition, Roland en parle souvent et pour lui ça semble inconcevable, mais le foot a évolué dans plein de domaines et dans celui-là aussi, le poste de gardien. Pendant des années, c'est vrai que c'était quasi inconcevable qu'il y ait de la concurrence à ce poste. Il y avait clairement un numéro 1, un numéro 2. Mais on va dire à la limite, si on remonte aux années 70-80, presque même dans les équipes types, on savait clairement qui était qui, machin... Au fil du temps, il y a eu de vraies évolutions, tu avais des concurrences à chaque poste, les mecs, tu pouvais avoir des gars qui se dégageaient, mais globalement, on se disait un tel peut prendre la place d'un tel. Et plus ça va, dans les gros clubs, et c'est comme ça de plus en plus, quoi. Les effectifs de 20, 25 joueurs, avec des concurrences sur certains postes, je sais pas moi, Manchester City qui a pour le poste de 9, Gabriel Jesus et le Kun, ou Manchester United, plein de joueurs à des postes importants, Aubameyang, Lacazette, enfin bon, voilà. Le poste de gardien avait toujours été un petit peu tenu à l'écart de ce genre de concurrence-là. Ces dernières années, on est quand même obligé de regarder. Alors, j'ai pas réellement d'avis sur le bien ou le pas bien, mais je me dis, en raisonnant par l'absurde, pourquoi ce poste, par quel effet de psychologie, il aurait pas pu évoluer au point où un gardien soit doit partager le temps de jeu, soit doit se dire, bah si je suis bon, je sors. C'est à chaque fois, on a l'impression que c'est une cata. Oh là là, si tu le sors, tu l'enfonces. Oh, puis si tu, il faut le laisser sur le terrain parce que ça lui redonne la confiance. Oh, tu vas le casser, tu vas lui briser le moral. Mais pourquoi si toi ça t'arrivait toi non parce qu'on ne sortait pas, mais d'autres mecs si on les sortait et tout,
sauf Guy Lacombe.
Tu vois, je veux dire pourquoi le gardien pourrait pas vivre ça. Alors c'est vrai qu'après ça donne des situations qui peuvent être étonnantes. Par
en
exemple,
fait c'est différent.
Le Real le Real qui va recruter Thibaut Courtois, j'ai trouvé ça étonnant sachant que t'as eu Navas qui t'a jamais lâché.
Exactement.
Et donc tu te retrouves avec deux super gardiens. Oui, mais alors, sauf que... j'ai envie de leur dire, mais vous avez pas à mal le vivre parce que c'est la vie maintenant. Manchester City a eu ça l'année dernière à la Juve. Ils avaient deux gardiens. Buffon n'a pas fait tous les matchs. Il a pas fait tous les matchs. Chesney, il en a fait quand même. Il a dû faire quasi.
C'est normal. Vu l'âge, Buffon est un mauvais exemple.
Bon, Buffon est un mauvais exemple. Mais de plus en plus, on le voit. C'est cet état.
Alors
de fait.
Je vais
de plus en plus. Bon, ça tient peut-être sur 5 clubs et sur le reste, on sait clairement qui est qui. Mais bon, pourquoi ce poste-là échappe à ça?
5 clubs, déjà.
Ouais, non, c'est vrai.
Franchement, t'en
peut-être
as pas.
Peut-être qu'on n'y arrive pas.
Non, exactement. Donc, il y a eu ce qui a fonctionné. Rappelle-toi, c'est Barcelone. Barcelone qui avait été champion d'Espagne.
Mais c'est eux qui ont commencé.
Et voilà. Oui, mais
c'est eux qui ont commencé.
Moi, c'est vraiment.
Et comme par hasard, c'est à Barcelone que ça a commencé. Comme par hasard, Guardiola n'est pas clair dans ses gardiens de nouveau à City, et comme par hasard, Tuchel est un adepte de Guardiola.
Non mais Guardiola.
Je pense, qu'il y a une façon de penser,
à City,
mais qui peut
Daniel,
ne pas plaire
clair
à tout le monde et pas aux gardiens.
Il est clair. Aujourd'hui, quand il a recruté le Brésilien, c'est lui qui a joué.
Oui.
Et pourtant, il a quand même, s'il a souffert
avant
au départ.
Avant ça, on savait.
Parce que l'autre s'est déchiré, il venait de Barcelone. Pour avoir un temps de jeu complet.
On a l'impression qu'ils étaient équivalents, qu'ils étaient pas top, mais qu'ils étaient équivalents dans le moyen.
En fait, je pense que le gardien, celui qui venait de Barcelone, là, j'ai un trou là.
Claudio Bravo.
Ouais, Claudio Bravo, qui était donc dans cette formule à Barcelone, je joue le championnat et le Hollandais
Ter Stegen,
voilà, joue la Ligue des Champions. Lui, ça lui a cassé la tête. Il s'est dit,
c'est vrai que c'est quand même une méthode un peu étonnante.
Donc je pars, je vais à Guardiola, il m'assure du temps de jeu, même si c'est Joe Hart qui est derrière moi. Joe Hart, ils en voulaient plus. C'était.
Ouais, mais n'empêche que tu mets un gardien un peu historique.
C'était un autre aussi. C'est Joe Hart qui venait de partir et l'autre là, c'était peu importe, l'Argentin, non, c'est pas ça. Et donc il le prend. L'autre n'est pas bon. Il fait plein d'erreurs au départ dans son jeu au pied, tout ça. Qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais remettre l'autre, ce qu'il a fait, et je vais en chercher un autre. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a fait n'importe quoi, sauf que pour lui, ce qui était clair, c'est de prendre un numéro 1. Et aujourd'hui, le Brésilien qui venait de Benfica, il le prend, il le met, et il a fait ses preuves. C'est un monstre dans les buts. Ils ont été champions l'année dernière, il va continuer, voilà. Je pense que c'est vrai que c'est un poste particulier. Moi, je les ai vécus, ces postes-là. Je les ai vus. Ils s'entraînent à part. Ils ont un entraîneur à part. Ils sont deux ou trois, donc rassemblés. Ils participent pas à toutes les séances, pas à toutes les causeries. Un joueur de champ, tu peux l'écarter, mais mine de rien, si tu l'écartes de l'équipe titulaire, ça t'empêche pas l'entraîneur de le faire rentrer une demi-heure. Un gardien, non. Un gardien, quand il est sur le, il est remplaçant, tu vas pas le remplacer au bout d'une heure de jeu. Il reste sur le banc. Donc le fait que tu le sors parce qu'il a des mauvaises prestations, forcément, il va pas jouer, il va pas montrer ses preuves parce que c'est pas les entraînements. En plus, je te dis, l'entraîneur principal, il l'a pas toujours en ligne de mire parce qu'il s'entraîne la majorité du temps à part. Donc, pour qu'il reprenne confiance, c'est difficile. Et en plus, le numéro 2, quand il prend sa place, s'il est bon, comment tu veux lui expliquer que le numéro 1 qui a pas été bon, il va lui reprendre sa place? Donc, si tu veux, c'est un peu,
tout le monde
qui se mord la gueule.
En recrutant Bouffon, ils se sont mis dans la merde tout seul.
Mais parce que tu parles de concurrence.
Tu dis qu'ils ont pas été clairs avec Areola.
Mais oui, parce que pour moi,
moi, je pense surtout que Bouffon, si Tourelle avait eu son mot à dire, il serait peut-être pas venu.
Mais déjà, et ou s'il était.
Qui fait venir Bouffon?
Mais si Tourelle qui arrive.
Ce sont les dirigeants. Voilà. Ils ont l'opportunité de le prendre.
Et exactement.
Il y a un coup, ça sonne comme un coup.
Ils le font. Un coup bling bling.
Quand ils le prennent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Parce que moi, j'en ai quasiment l'incertitude.
Et tu crois qu'ils vont imposer ça à Tourelle?
Mais oui, mais de toute façon, si t'as dit aux joueurs, tu dis Bouffon, on parle pas d'un joueur, on parle d'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Donc même s'il a 40 ans aujourd'hui, si tu lui dis, tu vas jouer les gros matchs, tu vas jouer principalement la Champions League, parce que la Champions League, c'est ton objectif de la gagner enfin une fois, et ça va permettre peut-être au PSG et aux joueurs que tu vas avoir devant toi, les défenseurs là qui doutent un petit peu dans les moments qui sont difficiles, de les aider à passer le cap. Peut-être qu'ils lui ont tenu ce discours-là, sauf que ça va contre Alphonse Areola, qui lui, à mon avis, ne s'attendait pas à vivre ça. L'autre, il est bloqué les trois premiers matchs, c'est Alphonse Areola qui va jouer. Mais les suivants, je te le garantis, tu verras que Bouffon, il jouera les principaux matchs.
Allez, on va
et ça, c'est quand même dérangeant dans l'entente des deux. Et qu'on ne sorte pas, parce que je vois sur Twitter, qu'on ne sorte pas l'exemple du Real Madrid.
Je vois sur
parce
Twitter.
Que, comme tu disais.
C'est étonnant, moi, Navas, il n'est pas dans la boîte.
Mais là, là, sur l'écran. Je vois sur Twitter. Navas, on me dit, ça parle à Paris parce que c'est le PSG. Mais moi, j'en ai rien à faire de critiquer le PSG ou pas. Moi, j'ai pas envie de les critiquer.
Courtois et Navas. Oui, non, mais c'est très étonnant aussi.
C'est étonnant. Pourquoi? Moi, je vais dire
Navas,
parce que
quitte à tout gagner.
Mais parce que Navas, Daniel, Navas l'année dernière, même s'il est énorme sur des trucs, il est critiqué. Rappelle-toi, le président qui vient devant les supporters pour les calmer.
Ouais.
Donc le président, sachant que c'est un club qui est en reconstruction, il perd Zidane, qui l'a protégé aussi Navas. Il prend un autre entraîneur. Il se dit, écoute, je vais mettre Courtois. Peut-être que ça va plaire à tout le monde.
Franck, bonsoir.
Bonsoir les gars, ça va?
Ça va et toi? Salut,
Franck. Putain, je pensais jamais que j'allais parler avec Roten. C'est un truc de fou. Hein.
Avec Monsieur Roten.
Monsieur Roten, pardon.
Merci.
Salut Jérôme, ça va?
Bonsoir.
Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dès le départ, c'est on repart toujours du même principe, c'est que c'est un manque de com. On repart à la fin de saison. À la fin de saison, on est Paris est champion. On est dans une situation où Trapp ni Areola convainc aux dirigeants et un peu à tout le monde. Il y a un peu bien de chez Trapp, il y a un peu de bien chez Areola, mais on n'a pas un gardien. Voilà, on cherche tous un gardien qui peut nous frayer et qui peut nous sortir des arrêts décisifs pour les matchs importants. Ça, c'est la base de la fin de la saison. Ce qui se passe ensuite. Il y a l'opportunité de Bouffon. Bon, très bien, c'est un coup de bling-bling, un peu des Qataris. Ok. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Areola n'a pas joué une minute en Coupe du Monde. Il décroche la deuxième étoile. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la direction? Attendez les gars, on a appris Bouffon. On pensait faire la saison avec lui parce que bon, on pensait qu'il
y avait Areola qui est devenu une sorte de vedette nationale indirecte. Voilà, il n'a pas joué, mais il était dans l'affaire.
Areola est champion du monde. Et le problème, les gars, c'est qu'on peut pas mettre, un champion du monde. Et en plus de ça, ce qui est très important, champion du monde et formé au club.
Exactement, tu fais bien de préciser ça, c'est très important pour le storytelling.
Et c'est ça que moi j'entends plein de choses, mais la réalité, j'ai pas l'essence infuse, mais moi, je suis beaucoup Paris et ça fait 30 ans que j'y suis, et c'est ça qui se passe à l'intérieur. Et finalement, Nasser, ce qu'il aura, et cette fameuse deuxième étoile, et ben ça les a bien fait chier finalement. Parce que si, même si la France arrive en finale et n'aurait pas gagné la Coupe du Monde, Areola, il aurait été deuxième, personne n'aurait bronché.
Mais là, cette deuxième étoile, c'était le gardien qui était allé pour mettre les disques, et
donc,
voilà quoi.
Là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, on est dans une situation où Buffon, eh ben oui, bonhomme, tu vas jouer parce qu'on te l'a promis, mais en même temps, c'est un peu casse-couille parce que l'autre, il est champion du monde. Alors,
et surtout, t'as tout dit juste, mais il faut ajouter, il y a ces fameux trois matchs.
Il y a ces fameux trois matchs.
Ces fameux trois matchs de suspension qui rendent encore plus galère la gestion.
Et puis, t'as aussi le France Pays-Bas, quand même, qui, pour Areola, change un peu tout.
Non, oui, voilà. Le France-Allemagne,
pardon.
T'as le France-Allemagne où l'autre brille, et t'as les fameux trois matchs de suspension de Buffon. Tout ça, ça met un bordel qui est
retourné contre les... Et en plus de ça, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il nous fait un match de l'Allemagne contre les Pays-Bas. Voilà. Il fait quand même relativement deux beaux matchs. Et donc, ça continue autour de lui. Donc là, en plus de ça, limite, pour l'insert, il aurait fait deux gros doublettes, ça aurait réglé l'histoire. Donc, en gros, on se retrouve avec une personne qu'on a choisie pour les gros matchs, parce qu'on sait que c'est des personnes comme ça qu'il nous faut gagner des gros matchs et qui sont décisifs. Et on a une personne, finalement, qui a pas prouvé tant que ça, mais qui a les étoiles et qui a tout ce qu'il faut autour et qu'on peut pas laisser sur le banc, parce que laisser un Français formé au PSG, champion du monde, laisser sur le banc, c'est pas possible, ça peut pas passer. Donc, on va être obligé de le faire jouer. Et là, finalement, et ben, à la fin du compte, on arrive mi-septembre. Oui, il y a les trois matchs de suspension. Mais finalement, dans la tête de Tourelle et de Nasser et même d'Arthur Henrique, il n'y a rien qui est réglé. On ne sait pas comment ça va se passer.
C'est là que je suis pas d'accord avec toi.
Mais tout est réglé derrière. Mais tu verras.
Sauf que la gestion à l'intérieur du groupe va être très compliquée. Du moins à l'intérieur des gardiens, parce que tout le respect que doit avoir Alphonse Areola, parce que c'est quelqu'un qui est très respectueux, et bien sûr que ça doit être qu'il est heureux aujourd'hui de travailler et d'être proche d'un gardien comme Gigi Buffon, qui va beaucoup lui apprendre. Mais sauf que la compétition, t'as envie de le jouer. Et en plus de ça, vu que là, il est en train de progresser, et t'as l'impression qu'il va pas s'arrêter, et ben, au bout d'un moment, on va lui dire, non, stop, tu vas t'arrêter cette année. Et là, la gestion va pas être simple. Vraiment.
Merci Franck. Attention, on enchaîne, jingle. Bribois.
Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une?
C'est dur parfois. On va parler de Lyon et de Genesio.
L'autre là.
On va écouter de quoi?
Mais il te met des jingles, genre. Quel suisse-boule celui-là.
Bah ouais, mais il a raison en même temps.
Ah ouais.
Écoutez Bruno Genesio, qui encore une nouvelle fois a dû répondre aux critiques ce matin en conférence de presse.
Oui, je le regrette. Je le regrette. J'ai fait mon mea culpa avec les gens du club. Sur ce point de vue-là, voilà. Ma réaction, je ne la regrette pas, mais je regrette d'être dans un endroit où je n'aurais pas dû être. Lorsque certaines limites sont franchies, je ne peux pas rester de marbre. Je rappelle quand même qu'il y a un an, jour pour jour, la divulgation de mon numéro de téléphone sur Twitter, qui m'a valu une centaine d'insultes et de menaces, et dernièrement, donc, cette fameuse altercation qui est complètement liée à ma fonction d'entraîneur, qui s'est passée samedi.
En fait, je commence à en avoir franchement marre. C'est-à-dire que il y a des trucs, le foot, il y a des choses qui s'installent et qu'après tu peux plus bouger. Donc la Coupe de la Ligue, c'est pourri. On peut pas jouer tous les trois jours. Et maintenant la nouveauté, c'est Genesio est nul, faut qu'il dégage. Tu vois ? Et c'est devenu un truc installé dans la tête des Lyonnais, à tel point que ça donne le pauvre. Moi, je le plains, Bruno Genesio. Enfin, je veux dire, le mec, il est gêné dans sa vie privée. Il peut plus aller faire un pas dehors sans trouver un mec qui lui dit, ouais, t'es nul, dégage, machin. Il peut pas aller bouffer, sortir en boîte ou je sais pas faire sa vie. Je remets pas. Attention, hein, moi, je dis pas que c'est un génie absolu. Ça commence à me gêner. Franchement, ça commence à me gêner.
Sortir en boîte, ça soit la vie d'un entraîneur. Mais bon, ça.
Non, mais il fait ce qu'il veut. S'il veut aller.
Ouais, mais tu as aussi un devoir d'exemplarité quand t'es entraîneur.
Aller en boîte jusqu'à preuve du contraire, c'est pas enfreindre l'exemplarité.
C'est pas illégal.
T'as quand même le droit d'aller où il était, au resto boîte où il était. Voilà.
Mais oui, mais tu peux t'en passer aussi.
Donc en fait,
Jérôme, alors là, c'est formidable. Alors, tu vas pas lui reprocher à lui d'être allé là et de s'être fait insulter par le mec qui voulait.
Je te dis juste, c'est pas là où on parle de Genesio, mais je te parle de l'ensemble des entraîneurs. Je suis désolé, mais moi,
donc il y a ceux qui ont le droit d'aller jouer au golf, c'est pas grave, mais lui, il peut pas aller boire un verre le soir de je sais pas si c'est son anniversaire ou
ça va. Si c'est un verre, ça va.
Bon. Moi, franchement, je commence à être gêné par tout ça. Laissez-le tranquille. Alors, ok, il fait pas l'unanimité. Peut-être qu'il fait des conneries dans ses choix. Il a peut-être pas le charisme que certains voudraient avoir. Mais enfin, laissez-le quand même bosser. Et faut arrêter.
Non, mais
et
moi, ça, je tu peux pas dire ça non plus.
Il y a un tropisme lyonnais.
Non, mais laisse-le finir.
Attends, il y a un tropisme lyonnais. Parce que vous vous souvenez avec Puel, vous vous souvenez que Puel, il y avait des banderoles sur les ponts à Lyon. Puel dégage.
Mais pourquoi tu demandes plutôt que de dire laissez-le bosser, pourquoi tu cherches pas le responsable de ça?
Mais c'est pour ça.
Voilà. Tu veux peut-être aller jusque là, moi je veux pas aller jusque là. Je veux pas hurler avec les loups lyonnais anti-Genesio. D'ailleurs, il y a aussi sans doute quelques lyonnais qui n'ont rien de spécial contre Genesio,
hein. Ouais, enfin, là, c'est un peu compliqué à trouver là.
Enfin, bon,
tu devrais plutôt t'interroger sur ce.
Ça dépasse les bornes et ça me saoule. Voilà. J'en ai assez en fait. Laissez-le tranquille.
Si ça dépasse les bornes et que c'est effectivement pas normal, que tu arrives à une situation surréaliste.
On est d'accord sur la normalité quand même.
Exactement. Si ça a déjà dépassé les bornes dans le passé, avec Puel, si ça avait également valu...
Puel, c'était chaud, hein, Puel. Hein.
Mais évidemment,
très chaud.
Si ça avait valu quelques remarques acerbes, je dirais pas de qui, parce qu'on révèle pas nos discussions intimes et privées, mais de gens importants à Lyon sur des entraîneurs de Lyon, et notamment un qui est allé ensuite au PSG et que Jérôme a très bien connu. Des propos limite un peu insultants. Mais s'il y a toujours eu cette dévalorisation un peu dégradante de l'entraîneur...
Tu veux dire que certains laissent un peu faire les supporters?
La faute, mais non. La faute à qui? De qui je parle quand je vois les propos, hein, de qui je parle? C'est le patron du club. C'est lui qui a toujours voulu des loufias. Et qui les traite comme ça, qui les met en porte-à-faux permanent, qui fait un coup...
Loufia, le mot est peut-être un petit peu dur. Tu veux dire des gens sur lesquels il a la main. C'est ce que tu veux dire?
Et alors, ça veut dire quoi alors?
Bon, ben vas-y.
Un mec, tu le laisses même pas responsable.
C'est un peu moins péjoratif,
oui,
Daniel.
Bon, bah, d'accord. Allez,
mais c'est péjoratif volontairement.
Ouais.
Parce que la façon que lui a de voir l'entraîneur, c'est une vision que je n'approuve pas. T'as l'impression que c'est le gars du club à qui on a donné l'équipe. Ah, vas-y, prends l'équipe première. Mais de toute façon, s'il y a un problème, hein, t'inquiète, je suis dans le vestiaire, je vais régler l'affaire. Le gars, je vais le recadrer. C'est moi le patron. C'est une vision qui est dépassée, totalement dépassée. Et ça met les entraîneurs dans des situations insupportables.
Malgré tout, Jean-Michel Aulas défend toujours ses coachs.
Mais oui, il le défend, hein, sans le défend, il défend
et avec conviction.
Non, c'est de la fausse conviction.
Bah, il le défend.
S'il le défendait autant, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Je te dis que c'est le problème, c'est principalement le président, et la preuve en est, c'est trop un problème qui se répète trop souvent. Avant, c'était Lacombe qui intervenait. Mais rappelle-toi ce que nous a raconté Houillet mille fois. Pourquoi il se barre? Il en peut plus parce que au-dessus, dans le bureau d'en haut, à l'époque, t'avais Lacombe qui était sans arrêt.
Il est toujours là, je te signale. Hein. Il est en conseiller externe, d'orage, assis à côté de lui pendant les matchs.
En entraîneur, qu'est-ce qu'il saoulait? Au-dessus de sa tête, il entendait toujours Lacombe avec le patron. Sans arrêt, c'est un modèle récurrent. C'est un problème. Et Genesio, il souffre de ça. Après, il y a le débat parallèle. Et là, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas dire, laissez-le, pas de critique, machin. Parce qu'à force,
qu'on critique les choix de joueurs, qu'on critique la tactique, sa mise en place.
Non, mais il faut insister là-dessus. Parce que ce que pensent beaucoup de supporters lyonnais, et là, moi, je suis d'accord avec eux, c'est qu'ils disent, ouais, mais,
Attends,
mais ça c'est absurde. Mais ils disent non, mais il y a beaucoup de supporters lyonnais qui aujourd'hui sont là et disent ce qui est insupportable, c'est qu'il y a énormément de médias qui soutiennent Genesio maintenant. Avec une forme de beaucoup de supporters lyonnais disent ça. Avec une forme de confusion qui est comme il inspire justement c'est ce que tu disais, cette forme de ras-le-bol par rapport à la situation qu'il vit tous les jours, ça apparaît comme une défense. Mais en gros, je défends l'homme, oui bien sûr, l'entraîneur, après on peut débattre comme on débat de tous les entraîneurs, et ça d'ailleurs Genesio l'accepte parfaitement. Ça, il accepte parfaitement qu'on critique ses choix et tout. Mais quand on l'attaque sur l'homme, il y a des choses qui sont insupportables.
Sûr,
et là, moi aussi, je le défends là-dessus. Je trouve que c'est pas normal. Le numéro alors, l'année dernière.
Alors regarde, maintenant, chaque conférence de presse, il passe la moitié de sa conférence de presse.
La situation.
Devoir justifier ce qu'il se dit.
Et la conclusion.
Tu sais ce que c'est la conclusion?
C'est que la situation, elle est insupportable et il ne peut pas rester. Il y a un point de non-retour. Parce que comment veux-tu qu'il se sauve maintenant? Comme Otikiso, il va pas être champion de France.
Non, il va pas gagner la Ligue des Champions.
Mais
c'est pour ça.
Ça va être compliqué de sortir des poules. Même s'il sort des poules, bon, on lui trouvera tout le temps, machin.
Donc,
en fait, il va terminer sur.
Je suis pas si catégorique que toi. Imagine qu'il fasse une grande saison.
Mais.
Il termine deuxième, il gagne une Coupe nationale.
Il est obligé d'aller
vers des succès qui sont très improbables aujourd'hui. Il est dans une situation.
Mais qui peuvent arriver.
Ouais, mais il est dans une situation extrêmement délicate.
Sur le mois d'août, ils sont quoi là?
Ah bah là, ils sont pas voilà.
Non, mais OK, non. Le mec qui termine 3e de la poule, il fait le parcours de l'OM en Coupe d'Europe.
Exactement,
en UEFA. Oui, bah, OK,
on,
très bien.
Mais on parlait comme ça il y a 2 ans, il y a 1 an déjà où il devait faire la finale
l'élimination contre l'Ajax.
Non, mais l'année dernière il y a contre Moscou.
Non, parce que j'ai l'impression
c'est compliqué, il est dans une situation qui est inextricable aujourd'hui et il est fatigué. Il est fatigué nerveusement.
Ouais, mais alors attends, écoute, moi il y a plusieurs points. Je suis d'accord avec toi que déjà ça doit être ça doit lui prendre la tête à chaque conférence de presse de répondre à des questions qui sont extra-sportives. D'accord. C'est dans sa vie privée, c'est ceci. Il est capable de botter en touche. Les journalistes, ils posent des questions, ils répondent pas, ils vont pas la poser 15 fois. Et la deuxième conférence de presse, ils vont savoir. Au bout d'un moment, t'as un attaché de presse aussi qui est là, qui est mis en avant. Son président, parce que tu me dis, il le défend tout le temps. Jean-Michel Aulas, il est capable d'aller devant la presse, dire, écoutez, maintenant, les questions sur la vie privée de Bruno Genesio, vous arrêtez.
Tu n'es pas un expert en communication.
Non, mais
je te garantis qu'il a intérêt à y répondre aux questions.
D'accord.
Parce que s'il répond pas, c'est pire.
Ce qui est pire, c'est de faire ces conférences de presse-là, où tu passes, comme tu dis, les trois quarts des questions à répondre.
Mais sauf que s'il n'y a pas ces événements-là, sur son externe.
Alors après, attention, moi, je vais pas aller le soutenir ou pas le soutenir, parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse s'en prendre, même si, je le répète, avec les résultats de Lyon sur ce début de saison, pas la manière de jouer, parce que le dernier match, c'est quand même un scandale qu'ils perdent, parce qu'ils doivent le gagner 15 fois, ce match contre Nice, mais bon, ils le perdent. Les résultats sont pas bons. Je reste persuadé que, moi, comme ma vision des choses, quand t'es un entraîneur, t'as un devoir d'exemplarité par rapport à ton groupe, par rapport à ton club, par rapport à ta ville, t'as autre chose à faire que d'aller dans une soirée. Mais bon, peu importe. Et les joueurs, c'est la même chose. Quand moi, je voyais mes coéquipiers qui, après une défaite, allaient se prendre une murge à droite et à gauche, ça veut pas dire que Bruno Genesio était comme ça, mais allaient prendre une murge, je trouvais ça inadmissible. Ça veut dire qu'ils ont un tel recul que les mecs, ils s'en battent les couilles. Donc c'est pas possible. Ça, tu ne peux pas le faire. Il s'est mis en faute. il s'est mis en faute de ce côté-là. Mais ça, vas-y, c'est le côté privé. Il a fait une erreur, il le reconnaît, voilà. Aujourd'hui, t'avances. Comment? Moi, je suis d'accord avec Daniel. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est voué à l'échec.
Bruno Genesio. Coach Courbis disait tout à l'heure dans le RMC Sport Show, si j'avais été élu, je serais parti en juin.
Mais de toute façon.
Il serait quoi?
Je serais parti en juin dernier.
Oui, mais attends. Après, quand Daniel te prend le terme de loufia ou voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'avais fait mon avis tranché il y a quelques semaines là-dessus, sur lui, où je te disais que c'est normal qu'il parle pas de lui-même, parce que pour lui, c'est une aubaine d'être là.
Oui.
C'est une aubaine.
Il a le boulet originel d'avoir été le mec un peu en transition qui est resté finalement.
Exactement. Avec des bons résultats. C'est pour ça qu'il est resté. Il a renversé l'équipe, il a réussi avec une première partie de saison de Fournier qui était complètement ratée, et il prend la suite et ça marche. L'année d'après, il fait une saison moyenne avec beaucoup de défaites quand même, on les met en alerte.
Le suivant, c'est Baticle, si tu respectes la logique.
Mais au bout d'un moment, Jean-Michel Aulas, moi je suis d'accord avec Daniel, juste pour finir, excuse-moi Daniel, mais je suis d'accord avec Daniel, au bout d'un moment, le responsable, c'est Jean-Michel Aulas, c'est lui qui met ses entraîneurs.
C'est lui qui choisit les hommes.
On va conclure, les gars.
Au bout d'un moment, il y a juste une personnalité à avoir. Bruno Genesio, il est comme il est. Pour moi, il arrive à son max. Il aurait espéré, il y a quelques années, quand il a commencé son métier d'entraîneur, jamais il aurait imaginé ou rêvé être à la tête de l'OL. Non, mais même avant, il était en amateur je sais pas où, il avait pas eu des super résultats. Oui. Donc pour lui, c'est une aubaine. Il est là. Mais ça, c'est de la faute de son entraîneur. Si tu mets un entraîneur qui va faire plaisir aux supporters, qui va faire bouger l'équipe, parce qu'attention, il arrive à bien les faire jouer par moment. Le match de Nice, c'est un match très intéressant. Sauf que pourquoi ils perdent ce match? Alors, il y a la maladresse devant. Mais il y a un manque de caractère. Moi, c'est ce que je mets en avant. Mais ça, c'est ce qui dégage. Pour moi, l'entraîneur, ce qu'il dégage, c'est important. Il y a la tactique, il y a le côté technique qui répète à l'entraînement. Il est bien entouré avec Baticle, avec Coupé, avec Cassapa. Bien sûr qu'il y a il y a de la connaissance du club et de la connaissance technico-tactique. Mais par contre, après, au bout d'un moment, t'as ce que tu mets, le caractère que tu mets. Je sais pas ce qu'il leur dit, mais les joueurs, je sens pas encore depuis le début de saison, et les supporters, ils se rassemblent là-dedans. Ce que je veux dire, ils veulent une équipe différente dans l'état d'esprit pour aller peut-être arracher des matchs où ils ont perdu qu'ils n'auraient pas dû perdre.
Il y a un autre élément aussi.
Et on conclut, Daniel.
C'est le supporter de Lyonnais, on va le prendre en base. À un moment, je pense qu'il a espéré. Il s'est dit, pourquoi nous, on est le club, on est très content de fonctionner avec notre boutique interne, parce qu'on est fier de ça, le Lyonnais est fier de ça. Il a raison après tout. Bah oui. Ils forment des joueurs, ils sont en Lyonnais, c'est bien d'avoir une base comme ça. Mais à un moment, il se dit, OK, pourquoi nous, on n'a pas le coach international? Pourquoi nous, on n'a pas... C'est uniquement pour l'image que tu dégages un peu. Voilà.
Moi,
pourquoi
je pense que
Nantes,
c'est hyper important.
Nantes, Monaco, ils ont eu Ranieri. Pourquoi Nice a réussi à choper Favre? Ouais, pourquoi ouais. Tu sais, des mecs dont les médias parlaient, pas comme d'un Stop entraîneur, Daniel. Machin, mais comme de quelqu'un qui a exactement. Déjà un vécu. Eux aussi, ils ont le droit à ce kiff-là du clinquant. Mmh. Pas du clinquant qui vaut rien, mais du clinquant qui vaut quelque chose, qui va t'apporter ça. Mmh. Pourquoi c'est jamais arrivé? Parce qu'il y a un patron qui ne supporte pas
ce
l'idée
sera le mot de la fin.
Que le club ne soit pas l'OL. Donc.
Dans la phrase de la fin.
L'OL, Dolas, basta. Non. L'entraîneur n'a pas le droit d'exister.
Après,
l'entraîneur dans ce club n'a pas le droit d'avoir une stature importante. Il ne peut pas.
Ouais,
ça, exactement. C'est un problème.
C'est
ça, c'est
si vous voulez continuer le débat, on peut le faire. Mais il faut d'abord faire une pause. Et puis ensuite, il y aura l'équipe type et l'équipe pipe du Stade Malherbe de Caen.
Très bien.
Une nouvelle fois, le suspense est total. Jérôme Rotten sera-t-il dans l'une des deux équipes? Vous le saurez dans quelques instants dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, messieurs, dames, je vous demande d'accueillir comme il se doit un fidèle de l'after. On ne pouvait pas faire notre équipe type, notre équipe pipe, sans qui? Sans Corentin, messieurs, dames. Jingle, Corentin.
Bah on est monté. Merci. La meilleure période, c'est quand t'étais plus au club.
Je sais pas de qui il parlait là, mais.
Bah de moi.
Salut Corentin.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Ça va?
Salut Corentin.
Très bien, merci. Très bien, ça va très bien, merci. Je viens de rentrer du stade MM Arena du Mans où j'ai été voir un magnifique match de national, Le Mans Tour 0-0.
Il a été se faire Le Mans Tour.
Il aime le foot, Corentin. Il allait voir Le Mans Tour.
0-0, c'était comment? Aussi
bonne
nul
première
que
mi-temps
le...
des Manceaux. Non, la première mi-temps, Le Mans doit gagner ce match parce que Le Mans a eu beaucoup plus d'occasions. Bonne première mi-temps, la deuxième beaucoup moins bonne.
Bon, très bien.
Ça le fait rire, Daniel. C'est un match national 0-0, ça le fait rire.
Bon, c'est vrai que le national 0-0, il y a du monde dans les tribunes parce que c'est grand le stade en plus là.
On est 7000 ce soir.
Ah, quand même, dis donc, 7000 c'est bien.
Bon, 7000 au Mans. Bravo les Mans.
Comment il s'appelait j'ai un trou, le président du Mans qui avait pété le boulard.
Le Garda.
Alors lui, c'est typiquement le mec qui, à un moment, il est parti en vrille totale.
Ah ouais.
Oh là là là, quand il est...
Ah, il a eu quelques surtout
l'année...
Il a eu des monstres. Hein,
l'année avec la célèbre où... vidéo Le Garda Case avec Jean-Michel Aulas.
Ouais, l'année où il veut tenir tête à Jean-Michel Aulas pour le transfert à plusieurs bandes avec Rudy Garcia qui doit aller à Lille, qui doit pas aller à Lyon. Oh là là, là il s'était vu au sommet. Il s'est vu au sommet du monde cette année-là, Le Garda. En plus, il recrutait et tout, Le Mans. Ouais. Je pense qu'il a vu le Mans podium Ligue des Champions à un moment dans sa vie.
Rudy Garcia, Romaric, Matsui, tu vois, Matsui, le
Mignot, il y a un paquet de joueurs qui sont passés au Mans.
Molefe.
Corentin, fais-nous la liste un peu des joueurs qu'il y avait au Mans, là, une époque, là. Un paquet.
Ouais, je vais faire une petite liste, je termine avec une modeste liste. Pelé, Bacha, Bonnard, Maïga, Gervinho, Demelo, Romaric, Graffité. Bon, ça fait une petite liste.
Beaucoup qui ensuite sont passés à Lille avec Rudy Garcia, justement.
Demelo, Bacha, notamment. Gervinho.
Bon, on était là pour parler de Caen. Parce que Caen, ça reste ton club, Corentin, mais d'accord.
Bien sûr, il n'y a pas photo, bien sûr. Oui, bien sûr.
Bon. Est-ce que tu as préparé ton équipe type de Caen?
Allez, devant moi.
Alors, avant que tu la donnes, on a compilé, c'est toujours le même principe, hein, vous le savez, toute la journée, vous avez envoyé vos équipes sur le hashtag équipe type Caen ou équipe pipe Caen. Je vais vous donner déjà l'équipe type des internautes aujourd'hui. Vas-y. Et ensuite, Corentin, tu nous donnes la tienne, ok?
Bien sûr.
Alors, équipe type des internautes, Montagnier dans les buts.
Ouais.
Voilà. Une défense centrale, Dumas Galas.
Ouais.
Latéraux, Angebar Guerrero. Milieu de terrain, N'Golo Kanté.
Non.
Coé et Sub. Et ensuite, une ligne de 3. Non, une ligne de 2. Enfin, comment elle était placée, cette équipe? Comment elle était...
Une ligne de 3.
Enfin, sur les côtés, en tout cas. Gravelaine. Et attention, on a reçu une bonne centaine d'équipes. Égalité parfaite entre Graham Rix et Jérôme Rotten. Étonnant.
Oh.
Et oui. Et devant, en point...
Divers.
Ah, divers, exactement.
Logique. Alors après...
Voilà l'équipe de rêve canaise des internautes.
Ouais, c'est la... C'est un mix, mais beaucoup de nouvelles générations quand même. Hein. Et parce que il y a des oublis. Alors je sais pas l'équipe de Corentin.
De banc important.
Vas-y, laisse Corentin dire son équipe.
Corrige un peu tout ça, Corentin.
J'ai des points communs avec cette équipe type, mais pas tous. Déjà, gardien, il y a débat, mais j'ai hésité entre Montagnier, mais j'ai pris Luc Borrelli.
Ouais, d'accord.
Luc Borrelli. La défense centrale, j'ai la même. Franck Dumas, William Gallas. J'ai hésité, mais j'ai fini par la choisir. Sur les côtés, j'ai arrière droit Cédric Angebar, arrière gauche recordman du nombre de matchs dans ce club Nicolas Seub. Qui dans les années 2000 joue arrière gauche.
Non. Alors là, Corentin, moi, vas-y, continue, parce que.
Je m'expliquerai. Là, je vais avoir un débat avec Daniel, parce que j'étais sûr qu'il allait réagir, mais j'ai aussi mis N'Golo Kanté, j'ai hésité, mais je vais expliquer pourquoi. Avec Benoît Coé à côté. Et mon quatuor d'attaque, Graham Rix, Xavier Gravelaine, Stéphane Paille, Cyril Vatier, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club.
Tu veux pas d'hiver?
J'ai hésité. J'avais même Anthony de Rouen dans mon équipe. J'ai hésité, mais je voudrais expliquer les 2-3 désaccords. Nicolas Seub, pourquoi je l'ai mis? Parce que déjà, je l'aurais mis dans le 11, quoi qu'il arrive. Je lui aurais trouvé une place dans le 11. Je l'ai mis à gauche parce que la plupart de sa carrière, il a joué à gauche. Je sais que Nicolas Seub, il joue un peu partout. Mais Nicolas Seub, on a l'image au milieu de terrain. Mais dans les années 2000, la meilleure période de sa carrière, c'est quand il est arrière-gauche. Et que c'est le pendant à Cédric Angebar. Pourquoi N'Golo Kanté et Daniel, si je peux me expliquer dès maintenant?
Non, parce que c'est une saison.
Ah non, c'est là le problème. Deux ans.
C'est un an en Ligue 2.
Et il y a des carrefours. Dans ces deux ans. Par exemple, j'entendais tout à l'heure Guerrero. Guerrero, je le mets pas du tout parce que Guerrero, c'est surtout à Lorient qu'il explose et Guerrero, il a fait que de la Ligue 2.
On en revient à ce que je disais, c'est un an, Kanté.
Non, j'arrive, parce qu'il y a des carrefours dans ces années-là. Il y a des carrefours. C'est pareil, j'ai lu tout au long de la journée, j'ai lu Thomas Lemar. Non, parce que Thomas Lemar, il joue pas assez à Caen. Thomas Lemar, trop
bien
court.
Sûr, et c'est un jeune, ça.
Je mets pas non plus.
Pourquoi Kanté?
J'aurais mis plus de mecs des années 90, moi.
Vas-y, non, mais vas-y.
Moi, les trois quarts de mon équipe, c'est des années 90. Moi, j'ai mis Kanté parce qu'il y a deux carrefours dans son passage à Caen. C'est un match très important dans la montée en Ligue 2, dans le Ligue 2 en Ligue 1 face à Lens, où il est stratosphérique, c'est là qu'il se révèle. Ouais. C'est Arthur 2014, c'est un match qu'on gagne face à Lens qui est très important. Et le deuxième carrefour, là, qu'il fait passer dans une dimension supérieure, c'est quand on va gagner au Vélodrome. L'OM sous Bielsa, où on est mené 2-0 et qu'on va gagner 3-2, ou avec Julien Ferré, il rayonne ce soir-là.
Super match,
et ce soir-là, c'est ça qui se révèle. Et comme c'est deux années importantes au club et c'est deux années où ça s'est très bien passé au club, j'ai voulu quand même mettre un mec de cette génération-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis.
Et non, mais tes deux carrefours à expliquer sont importants et probablement plus importants pour le supporter de Caen qu'ont vécu les.
Un joueur que personne n'a cité pour l'instant, c'est Yvan Le Bourgeois. Si vous vous souvenez de Yvan Le Bourgeois.
Plus de 10 ans
à Caen.
Moi, tu vois, alors je vais te dire.
Moi, j'oublie ces mecs-là, mais c'est des mecs un peu obscurs.
Si vous voulez, je suis bien placé, mieux quiconque aujourd'hui là sur le plateau et même avec tout le respect que j'ai pour Corentin, j'ai joué avec ces mecs-là. J'étais au centre de formation, je suis arrivé à Caen en 94, d'accord. Donc j'ai joué au centre en National 2, tu sais quand les pros ils descendent, ils reviennent de blessure, donc j'ai joué avec Yvan Le Bourgeois. Qui est quand même une figure de ce club, qui a joué le plus haut niveau, et ça revient à ce que je te disais hier, c'est quand le club a atteint le plus haut niveau, c'est-à-dire la Coupe d'Europe, l'UEFA, il faut récompenser cette période-là, ce qui me paraît logique.
Je suis d'accord.
Donc, il faut pas oublier. Moi, je veux bien. Alors, par exemple, à Nicolas Seub, avec tout le respect que j'ai, il a fait.
T'es obligé de le mettre aussi.
C'est comme si tu mettais pas Totti à la Roma.
Écoute, mais attendez.
C'est pas non plus la même importance.
Excusez-moi. Déjà, Nicolas Seub, il a fait la moitié de sa carrière en Ligue 2 plutôt qu'en Ligue 1. D'accord.
Il a fait tous les combats. Bon joueur, Seub. Il a fait tous les combats du club. C'est un travailleur, Daniel.
J'étais avec lui dans un vestiaire.
Moi, j'aime bien ce joueur.
J'étais avec lui souvent adversaire. Ce que je veux dire, arrête.
Mais à quand
arrête, s'il te plaît, me dis pas que c'est un beau joueur.
C'est un
joueur de club, d'accord. Soit un joueur de club, mais dans une équipe de rêve. Une équipe de rêve, c'est la plus belle équipe qui appartient. Je ne mets pas Nicolas Seub. Quand t'as des Yvan Le Bourgeois, t'as des Gdangbeto, parce que là, je suis d'accord avec toi. T'as Hippolyte Gdangbeto à Caen. Mais je peux te dire, il y a pas photo. Si tu prends Gdangbeto ou Seub, tu regardes les matchs, tu vas voir qu'il y a une différence énorme entre ces deux joueurs-là. Et pourtant, ils ont pas joué dans la même génération. Au milieu de terrain, moi, je veux bien N'Golo.
Moi, j'avais jamais prévu dans ma vie de m'engueuler sur Caen, donc si on pouvait arrêter tout de suite.
N'Golo Kanté, j'adore. Et aujourd'hui, champion du monde, c'est un des meilleurs numéros.
C'est ça l'After Daniel,
monde.
C'est la seule émission où tu peux te pourrir sur Hippolyte Dangbeto.
Tu m'écoutes ou quoi? Tu t'en fous. Bon,
N'Golo Kanté. Tu viens de t'engueuler sur Hippolyte Dangbeto, prends du recul un peu.
N'Golo Kanté, très bien, il a fait une année en Ligue 2, une année en Ligue 1. Allez, en Ligue 1, ils n'ont pas fini quand? A pas fini 6e du championnat, comme ça avait été le cas dans les années 90.
Est-ce que tu sais ce que fait aujourd'hui Yvan Lebourgeois?
Il y a un mec comme
chauffeur de bus à Caen.
Ouais, je sais.
C'est ouf.
Bah ouais, mais ils avaient pas les mêmes moyens que nous à l'époque. Hein. Ils gagnaient pas la même chose.
Moi, Lebourgeois, je le mets dans l'équipe.
Pourtant, je lui ai fait gagner des primes en National 2 à l'époque. Il était derrière moi, il courait plus le pauvre. Il avait.
Corentin, bouge pas. Et juste, non, mais tu prends le temps de tout le monde.
On a oublié Jesper Olsen. On a oublié Fabrice Divert.
Fabrice Divert.
Cyril Vatier, c'est la même chose.
Cyril,
il est arrivé au club, j'y étais. Cyril, il arrivait de Pontivy, exactement, de CFA. Donc Cyril, c'est un super, il a marqué beaucoup de buts et tout ça, c'était un buteur. Maintenant, tu peux pas le mettre avant Fabrice Divert quand même.
Ou même Paille.
Bah Paille, pareil. Mmh. Paille, Divert, Gravelaine, Graham Ritz.
Et de devant, non, Corentin.
J'ai pas entendu, excuse-moi, Daniel. Les deux devant, moi, les miens, c'est Cyril.
Non, deux devant.
C'est-à-dire?
Bah c'était bon le joueur c'était Stéphane deux devant.
Ah pardon, voilà, j'avais compris, t'es deux devant, j'allais les reciter, pardon, je suis désolé. Non mais après je savais qu'il allait avoir des débats et je sais que sur Kanté j'hésitais, je le mets pas.
Non.
Sur Seub, j'hésitais sur Seub, non, je le mets pas. Angebar, je le mets. Après, bon, une équipe c'est 11, sans faire des choix, j'ai essayé d'être plus cohérent.
Stop.
Moi, pour terminer, Corentin, Hubert, je me suis pas expliqué.
Hubert. C'est pas grave, je veux pas t'expliquer, surtout, c'est la vie. Corentin, bouge pas. On a Benoît au 32-16. Benoît, bonsoir.
Un autre en regard.
Oui, un autre regard. On est proche, hein, vous avez cité à peu près tous les joueurs.
Est-ce que t'as vu un scandale dans ce que t'as entendu pour l'instant?
Ouais, vous avez oublié Willy Gerter.
Ah, exact.
Willy Gerter, pour moi, ça a été un des meilleurs milieux de terrain qu'on a eu au Stade Malherbe. Mm. C'était un joueur extraordinaire. En effet, Jesper Olsen, je suis content que j'ai entendu. Je crois que c'est
l'époque Venois, ça.
Oh, c'est moi, Jesper Olsen qui l'a
dit. Jesper Olsen, en plus, Jesper Olsen, d'abord, c'était milieu offensif, puis après, c'était un arrière latéral, parce que Daniel Jean-Dupeux l'avait fait juste à l'arrière.
C'est vrai.
Super, il s'est réveillé en arrière latéral. On n'en a pas eu de si bon. J'aimais bien des joueurs un peu des vrais joueurs de Ligue 1. Michel Rio, je sais pas si vous souvenez de ce joueur.
Michel Rio.
C'est qui doit détenir
le but
encore
le rapide
record
de Ligue 1.
Oui, il doit détenir encore le record à 8 secondes.
Exactement.
Non
exactement. Et puis il y avait un défenseur latéral que j'aimais beaucoup aussi à l'époque, qui était Germain. Un joueur
oui. Bah j'ai joué aussi avec lui, Germain.
Ouais.
Non, ça me dit rien, moi, Germain.
Ouais. Non, mais c'est à peu près le même style que Lebourgeois.
Joël Germain.
Joël Germain, exactement. T'as raison. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dans l'équipe
donc,
de rêve,
on enlève sur le même principe. On doit enlever Galas. Galas, l'explosion de sa carrière, c'est pas.
Comme Bernard Mendy, c'est pas pareil. Ce sont des joueurs qui ont explosé plus tard.
Mais en fait, c'est exactement la même chose que moi. Si je veux dire, moi à Caen, même si j'avais fait 3 ans, du moins 2 ans et demi en Ligue 2, j'ai joué qu'en Ligue 2. Et comme Bernard Mendy, c'est la même chose. Comme Mathieu Bonnemer, c'est la même chose. Il y a eu des très bons joueurs, mais on a tous explosé après. Galas, il a explosé à Marseille. Nous, on n'a rien à faire dans l'équipe de rêve. L'équipe de rêve, c'est exactement, c'est ça. C'est cette année, c'est fin d'année 80, début d'année 90.
Je vous la donne mon 11.
Vas-y.
Allez rapidement, Montagnier dans les buts. Défenseur central, Lebourgeois Dumas. Sur les ailes, je mets Dangbeto Germain. Au milieu, je mets Benoît Coé à la récupération. Sur les ailes en offensif, je mets Michel Rio et Jesper Olsen. Gerter en animation et devant, je mets Gravelaine Paille mais Fabrice Divert qui rentre à la mi-temps.
Mais non, mais ça joue entre les trois, t'as raison. Mais Gravelaine, t'es obligé de le mettre.
Gravelaine, c'est le patron.
Et
alors, juste Benoît, si tu devais choisir un entraîneur,
Kermankowski, parce que c'est lui qui a amené le club de.
Mais pas Jean Dufeu. J'aurais dit Jean Dufeu.
Non. Ce qui est important, ce sont les hommes qui ont amené le Stade Malherbe depuis la Nationale 3 quasiment à la Ligue 1. Et c'est Monsieur Fiollet, président, c'est Kermankowski. Et puis après, je dirais, il y a la génération Jean-François Domergue qui arrive l'année de la montée, qui fait une année ou deux, qui passe ensuite directeur général. Avec Guy Chambly. Bon ben voilà, c'est.
Moi j'aurais mis Jean Dupeux.
Ouais, Jean Dupeux, c'est l'adepte du 4-4-2, c'est lui qui a mis ça en place.
L'équipe Pipe, vous voulez bien?
Tu peux pas,
ouais,
quoi.
Équipe Pipe.
Ouais. Attention, équipe Pipe, voici l'équipe des internautes. Dans les buts, Peter Hinz. Tu fais marrer, lui.
Moi je l'aime bien, l'équipe Pipe.
Défense, Aladur, Ben Askar, Zoubar et Avené. Au milieu, ils nous ont mis Ben Kalfala, Renault, Et attention, surprise, énormément d'internautes ont mis dans l'équipe PIP Gravelaine. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce qu'il est.
Non, c'est n'importe quoi.
C'est dans son rôle de directeur sportif.
Peut-être. Et devant, une ligne d'attaque composée de Elliot Grandin, Fawzi Rouissi, et Pierre-Alain Fraud.
Ouais, Fawzi Rouissi, c'est quand même parce qu'il s'est révélé là-bas à Caen. Il a fait des bonnes choses. Si tout le monde parlait de Fawzi Rouissi,
on a oublié du monde là.
Ouais. T'as qui, Benoît, à citer toi?
Alors en attaque, je sais pas si vous vous souvenez de Pascal Nouma.
Ah ouais, époque Caen, c'était quelque chose.
Voilà. Pascal Nouma, j'ai une anecdote avec lui. Il avait un charpé. Tiens, on parlait de chien hier, donc comme ça, ça va t'intéresser. Mmh. Il vivait avec son charpé, et il arrivait, moi j'étais au centre de formation, donc je le voyais faire, bah, tu sais, parisien, tu vois, un peu,
ah, noir,
il arrivait dans le vestiaire, alors déjà. Hein.
Et, il venait avec son clébard à l'entraînement.
Il venait avec son chien à l'entraînement, et pendant qu'il y avait l'entraînement, il laissait son chien dans le vestiaire. Là, il pissait, il était tout petit, tu vois, il merdait partout, il s'en foutait l'autre. Il était complètement fou celui-là.
Qui d'autre a cité, Benoît?
Est-ce que vous vous souvenez de Pete Denbourg?
Pete Denbourg, exact.
Hein, non. Ça, c'était un avant-centre qui jouait à Bordeaux, qui est venu chez nous dans les premières années.
C'est un grand, là, tu te souviens pas?
Un grand Hollandais qui avançait pas.
Tu sais que tu peux mettre dans ces attaquants, tu peux mettre Kenneth Anderson.
Tu m'enlèves mon essai, en effet. On l'a acheté juste avant la Coupe du Monde 94, personne ne le connaissait, tout, il finit meilleur buteur, je crois.
Il fait une super Coupe du Monde. Il est pas meilleur buteur, mais il fait une super Coupe du Monde.
Il est arrivé à Caen.
On s'est bien régalé avec le Stade Malherbe. Benoît, merci.
Merci à tous.
C'était sympa. Corentin, à bientôt.
À bientôt, Gilbert.
Salut Corentin. Bon, on refera ça la prochaine after de 2 heures. On verra quel club on fait, ce sera la surprise. À moins que vous vouliez choisir maintenant.
Moi, je pense qu'on doit en faire l'OM.
Ouais, non, pas tout de suite.
Bordeaux.
Très bien, Bordeaux.
Bordeaux, très bien. Le prochain club sera Bordeaux. C'est parti. Et dans quelques instants, le reste de l'actu du jour, bien sûr, à l'after.
La Ligue des Champions, là, c'est...
Ce sera peut-être la semaine d'après.
Et encore.
Et encore, on verra. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Si on a le temps, on fera un quiz, mais je préfère privilégier les infos, les gars, et vous faire réagir. Nîmes fait appel pour Savanier, ce qui signifie que Mbappé va aussi être jugé. C'est la loi à la Ligue, donc en vertu du règlement. Nîmes fait appel, donc les deux cas vont être remis sur le tapis.
Je pense pas que ce soit aggravé pour Mbappé. Je pense pas, il restera avec ses 3 matchs, Mbappé.
Non, mais ça peut s'arranger.
La situation est trop claire. C'est pour Savanier que ça peut s'arranger.
Ça me paraît logique.
Ouais.
À suivre. Je voulais vous signaler.
Attends, Daniel, c'est mieux que nous. Il connaît les membres de la commission, donc.
Mis sur le dossier. Je te dirai ça bientôt.
Je voulais vous signaler également que Dagrosa,
il est en tournée Dagrosa. Hein.
Là, il a rencontré Alain Juppé. Étape préalable. Ah, ça y est, c'est fait. Il a vu le boss à Bordeaux.
Depuis le temps qu'il courait après.
Voilà, donc ça y est, ils se sont vus. Hugo Lloris, la Schumann continue après l'amende d'hier. Aujourd'hui, on apprend qu'il sera absent plusieurs semaines, c'est ce que dit Tottenham, en raison de sa blessure, donc avant le rassemblement. Rappelez-vous, blessure à une cuisse pour Hugo Lloris, donc plusieurs semaines d'absence. Peut-être un petit trauma post-mondial là, pour Lloris à tous les niveaux. Mmh. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore dans les infos du jour à vous donner comme info importante
Je sais pas, que le PSG a fait un accord avec Michael Jordan.
Non, ça j'avais
pas. Et que Nasser Al Khelaifi nous dit 2 points ouvrez les guillemets, Michael Jordan est fan du PSG. Mmh. C'est très très drôle.
Quand on
est décidé à faire de la com pour raconter n'importe quoi, c'est drôle.
Non, info importante.
Bon, l'accord est super important d'un point de vue du business, la marque à l'international.
Non, mais
qui dit qu'il est fan du PSG, c'est drôle.
Il avait toujours été fan, en fait.
Oui, bien sûr.
Je me souviens,
il dormait dans des draps PSG.
Et il nous envoyait plein de chaussures. Il était cool à l'époque. Et puis on le recevait, tu vois. Moi, souvent, il
le dernier titre remporté avec les Bulls. Il lève son maillot et en dessous, il y a du PSG.
Non, il y a la Tour Eiffel.
Oui, il y a la Tour Eiffel, c'est ça.
Non, il a un maillot de Francis Lasser, c'était la même année.
Ah, c'est ça.
Ouais, parce que c'est avant que j'arrive, parce que moi je lui en envoyais un, il me demandait tous les ans.
En tout cas, en termes de business, c'est énorme.
Alors,
le business, c'est très très important.
Pour revenir
vu la com qu'ils sont en train de faire.
Pour revenir à notre actu, les gars, on a reçu une lettre de Jean-Marc de Castillon-la-Bataille.
Ah, ça j'aime bien ces petites lettres.
Ouais. C'est où Castillon-la-Bataille?
C'est en Gironde.
J'aime surtout bien quand ils mettent une petite couche à Daniel. Vas-y.
Non, c'est pas le cas là. Là, Jean-Marc soulève un lièvre. Et il nous dit, messieurs, la Ligue ne respecte pas l'équité sportive. Pourquoi? Ami de l'after, dit-il, j'ai pris mon stylo. Parce que l'équité sportive est bafouée. Je suis supporter des Girondins, mais je vais vous parler de Rennes. Cette équipe va devoir, dans les matchs post-Ligue Europa, jouer systématiquement le dimanche à 15h ou 17h. Parce qu'il a regardé le classement. Enfin, tu sais, les affiches. Et c'est vrai que c'est absolument pas des affiches pour des matchs de 21h. Or, eux, les Rennais, il a fait ses petits calculs, Jean-Marc. Ils vont où? Ils vont dans leur poule exotique, là. Ils vont au Kazakhstan. Ils vont au fin fond de la République tchèque.
C'est-à-dire qu'ils ont pas le match à 21h, ils ont le match à 17.
Donc, qui c'est qui est lésé? C'est Rennes. Parce que jamais ils joueront à 21h le dimanche. Mais alors qu'ils vont rentrer.
Mais comment il est devenu supporter de Rennes comme ça?
C'est un scandale, me dit Jean-Marc. Non, il a fait le tableau là avec enquête à l'appui. Bravo Jean-Marc. Et on va suivre, parce que c'est vrai que les Rennais pour l'instant n'ont rien dit. On va voir si.
Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus c'est pas un club qui passe un petit peu inaperçu. Rennes en général.
On va se plaindre parce que l'étang est pas le genre à se plaindre là-dessus. Il l'a dit déjà.
Bon. Sinon, autre info importante, c'est, faudra qu'on fasse un dossier là-dessus dans l'after un soir. La FIFA veut limiter les prêts de joueurs et complètement réformer le système des transferts. Alors attention, parce que si ça arrive, ça va révolutionner le mercato. La FIFA veut limiter les prêts entre 6 et 8 maxi, parce qu'ils constatent qu'il y a beaucoup de clubs qui achètent beaucoup puis prêtent dans la foulée.
Ah bah évidemment, oui.
Ils veulent remettre une licence d'agent au niveau international qui n'existe plus. Voilà, pour éviter les intermédiaires, les histoires et trucs. Bon.
Pourquoi des histoires avec des intermédiaires?
Et ils veulent créer une chambre de compensation qui sera chargée de collecter et de reverser aux clubs formateurs les indemnités de formation. Voilà. Donc, rendre le système beaucoup plus transparent.
C'est quand même un paquet d'années que la FIFA veut réformer les transferts et mettre le nez là-dedans, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Est-ce que c'est faisable?
Bon, à suivre. Et puis, je voulais également vous signaler la fin, peut-être, de l'affaire des matchs, des tentatives d'arrangement des matchs de Nîmes. Puisqu'aujourd'hui, le jugement a été rendu. Jean-Marc Conrad, ex-président du club, et Serge Kasparian, actionnaire principal. 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, 50 000 euros d'amende. L'intermédiaire, Franck Toutounjian, 2 ans, dont 1 ferme, 5 000 euros d'amende. Peut-être qu'il y aura des appels. Mais enfin, voilà, cette affaire a été jugée aujourd'hui. Et puis, pour conclure, il faut sauver le stade Maracana. Vous savez que ce stade est quand même un stade mythique du football mondial,
oui.
qui était limite en ruine il y a quelques mois. Il y a une concession qui a été accordée à une société pour le gérer, et là la justice brésilienne a cassé la concession. Donc que va devenir le Maracana? Ça c'est quand même un truc incroyable. Imagine, c'est le stade mythique du foot, quoi. Voilà. Faut que le Brésil sauve le Maracana. Je lance un appel. Personne ne nous écoute là-bas, mais
et le quiz alors?
Peut-être quelques afters.
Il y en a
pas. Podcast. Pas de quiz, pas le temps.
Ah bah voilà. Donc, tu parles trop.
Mais non, mais les infos, c'est mieux que le quiz quand même.
Ouais, mais enfin, je sais pas, parce qu'il y a un paquet d'infos qui est un peu pourri, là, quand même. Je viens de dire que là, il y en avait 2-3. Franchement, on peut s'en passer peinard. Hein.
Pour faire ces émissions.
Et donc, on aurait fait le quiz, tu m'aurais dit, mais il est pourri ton quiz.
Non, pas du tout, parce que même le quiz pourri, au final,
en plus, c'est sur une défaite. Donc là, il a passé le week-end. Compliqué, Daniel, parce que.
Ça, je m'en fous, là. Ce week-end, j'ai tournoi, là. Je suis taquet, là.
Demain, il y a Ligue 1. Et demain soir, il y a l'after de la fin de PSG.
Demain, 14h, là. Je suis
pas affecté.
Avec Nico Villas. Bonne nuit à tous, et à demain soir dans l'after.
J'ai un doute.
Tout le foot avec MaxOutil.com. Le site français pour la maison, le bricolage et l'outillage professionnel. MaxOutil.com.
RMC Football Show. L'after foot.